Nos candeliers, 6h35 minutes, même 36 quasiment. Bonjour Jacques Munier, l'essai du jour.
Bonjour,
la revue du jour en préambule à l'émission Santé aujourd'hui. Oui. L'essai du jour de Bertrand Mas, Frédéric Pierru, Nicole Smolski, Richard Torielli, l'hôpital en réanimation au Croquant.
Voilà. Oui, et puis vous l'avez vu, on vient de l'entendre, la situation en Espagne, elle est encore plus catastrophique, si c'est encore possible. Alors, en guise d'ouverture à ces matins, vous allez traiter, Marc, l'important dossier de la santé, ce diagnostic aussi complet que possible, posé par un ensemble de médecins, de sociologues, de psychologues, d'économistes ou de chercheurs en sciences politiques. Le moins qu'on puisse dire est que le constat est alarmant. Dans la préface, le ton s'apparente même à l'appel au secours ou à la résistance, c'est selon. Ce qui est ici en cause, c'est l'application à l'hôpital des méthodes du nouveau management et de ses outils, indicateurs de performance, benchmarking ou évaluation comparative, responsabilisation des professionnels, etc. Vous connaissez le jargon. Les suppressions d'emplois qui font porter la pression sur les personnels et accentuent la dégradation des relations entre soignants et patients, générant démotivation et souffrance au travail, burn-out et risques sanitaires. Tout cela entre aussi dans le sombre tableau brossé par la vingtaine d'auteurs rassemblés dans l'ouvrage. Le fait est que la croissance constante des dépenses de santé impose des réformes. Mais comme le rappelle Brigitte Dormont, professeure d'économie de la santé à Paris Dauphine, et contrairement à ce qu'on entend souvent, le vieillissement de la population n'y joue qu'un rôle marginal par rapport aux coûteux progrès de la technique médicale. Ceux-ci ont permis, une amélioration de la qualité de vie des malades, une baisse des handicaps qui bénéficient en retour à la productivité et à l'accroissement de la longévité. Alors on peut préférer consacrer ces ressources à des loisirs au demeurant bénéfiques pour le moral et la forme physique. On peut préférer ça à financer un nouveau scanner. Ou considérer qu'une augmentation des contributions sociales devrait aller en priorité à l'éducation ou à la protection de l'environnement. Mais ce que l'auteur déplore, c'est l'opacité des décisions et l'absence de débat public sur ces questions essentielles. Et elle plaide pour une maîtrise intelligente et citoyenne des dépenses de santé, afin que leur croissance ne vienne pas seulement alimenter les profits des cliniques, des sociétés d'assurance ou de l'industrie pharmaceutique, sans réelle contrepartie pour la santé des patients. Nicolas Bellorget, qui avait mené une belle enquête de terrain sur le nouveau management à l'hôpital, publié à La Découverte sous le titre « L'hôpital sous pression », dénonce dans cet ouvrage l'emprise croissante des agences et cabinets de conseil qui se sont ouverts les marchés de la réforme de l'État en l'absence de toute considération sur la nature spécifique des activités engagées dans la relation de soins. Il revient notamment sur le rôle d'une agence proche du ministère de la Santé, l'AAES, agence d'audit des établissements de santé, qui intervient dans les hôpitaux et d'une manière ambiguë est à la fois en charge de construire un diagnostic des problèmes et d'aider les acteurs de la santé à les repérer et les résoudre, mais aussi d'inciter ces professionnels à appliquer les réformes et la nouvelle gouvernance. Cette agence sous-traite des audits à des cabinets de conseil privés, des sociétés de conseil en organisation qui ont pour mission d'aider les établissements à s'engager dans la voie de la modernité gestionnaire en adoptant un discours qu'on ne saurait contester, celui de la qualité des soins au moindre coût. Sur la qualité, principal argument de ceux qui résistent encore à cette idéologie néolibérale introduite à l'hôpital, son enquête révèle la mauvaise conscience générée chez les praticiens par ces injonctions contradictoires à la productivité et à la qualité des professionnels qui voient ainsi leur valeur fondamentale mise en cause. Parmi les outils étudiés par Nicolas Bellorget dans sa grande enquête figurait notamment le PMSI, programme de médicalisation des systèmes d'information, qui assure la comptabilité analytique hospitalière en mettant en avant sa médicalisation et ce afin de contourner la réaction des médecins face à la logique comptable de ce qui n'est au bout du compte qu'une comptabilisation d'actes médicaux. Cet outil, avec d'autres comme le point ISA, indice synthétique d'activité, ou la tarification à l'activité, fonctionne comme des instruments de mesure qui conditionnent la répartition des crédits, incitant ainsi les acteurs à coopérer en faisant porter la diminution des budgets sur ceux qui s'y refusent. Encore. Plusieurs auteurs s'inquiètent de la prolifération de ces instances privées de conseil, d'audit, d'évaluation ou de contrôle gestionnaire qui superposent à l'administration réputée tentaculaire et douée d'une lourde inertie un mécano d'officine voué à divulguer la bonne parole néolibérale. Ils relèvent la contradiction de cette idéologie du moins d'État qui revient finalement et paradoxalement à en accentuer le poids par la litanie ininterrompue des nouveaux règlements, directives et autres protocoles d'évaluation. Frédéric Pierru en conclut dans sa contribution que l'étatisation d'une part et l'ouverture à la logique des marchés d'autre part sont les deux faces de l'état sanitaire néolibéral. Du coup, on peut parler d'une contre-révolution eu égard à la révolution que fut notre modèle de protection sociale. L'un des symptômes les plus criants de ce retournement, c'est la délocalisation de certains services administratifs. On se souvient qu'à l'ère thatchérienne, des patients britanniques se sont retrouvés confrontés pour le suivi de leurs dossiers à des interlocuteurs situés en Inde. Aujourd'hui, la France suit le même chemin. Les comptes rendus d'hospitalisation de certains établissements sont désormais réalisés au Maroc, au mépris de la confidentialité et des recommandations de la CNIL. Au mépris surtout de la relation médecin-malade et du colloque singulier qui n'en déplaise aux gestionnaires du contrat de résultat compte pour beaucoup dans la relation thérapeutique.
Bertrand Masse, Frédéric Pierru, Nicole Smolski, Richard Torielli, l'hôpital en réanimation au Croquant et la revue du jour, c'est la revue pratique au pluriel, les cahiers de la médecine utopique, numéro 59.
Voilà, c'est donc un dossier sur l'erreur en médecine, on est également dans le sujet, l'erreur qui est rarement le fait d'une défaillance individuelle et qui s'inscrit le plus souvent dans une chaîne de responsabilité que les différents auteurs analysent dans cette livraison en se penchant sur la définition de l'erreur pour commencer. Il la replace dans la relativité historique des savoirs et des pratiques. Il questionne également l'indépendance et la pertinence des normes et des recommandations. Le dossier, évidemment, aborde la question sous l'angle de la prévention. Christiane Voller montre que si l'erreur est l'un des moteurs du savoir scientifique, elle est souvent le résultat des politiques de santé basées sur le chiffre. On revient à cette question. Annie Thébault-Moni montre comment au travail, la mise en danger d'autrui reste le plus souvent impuni du fait de l'influence des différents lobbies. Marie Kaiser explore les voies de recours pour les victimes d'erreurs médicales. Et puis dans la partie magazine, Claire de Firmin, une orthophoniste, témoigne aussi de l'influence des firmes pharmaceutiques sur la prescription par les pédopsychiatres de dérivés amphétaminiques pour les enfants dits hyperactifs. Il est aussi question de formation dans cette livraison. Jessica Guibert se demande par exemple ce qu'elle a appris de l'erreur dans les études qu'elle a faites, les études de médecin.
Merci Jacques Meunier, la revue pratique. Donc, dossier l'erreur en médecine, bien sûr, toutes ces références à retrouver sur le site L'Essai du jour, la revue du jour, franceculture.fr.